Gloire au Seigneur. On est heureux de pouvoir passer ce temps dans la présence de Dieu et nous croyons, parce que la Bible le dit, que Jésus est là. Et cet après-midi, c'est ce qui peut faire toute la différence. Le dernier chant que nous avons chanté introduit parfaitement le message que j'avais sur le cœur pour cet après-midi et pour cela, nous allons faire une lecture dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. C'est un texte bien connu, ou peut-être pour certains, vous allez le découvrir cet après-midi. Ce qui est important, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est notre cœur cet après-midi. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint, et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. » Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Cette parabole, Jésus l'a dit dans un contexte bien particulier. Les pharisiens sont là, et ne comprennent pas Jésus, ne comprennent pas son ministère, ne comprennent pas son amour. Et ils sont en train de critiquer Jésus, parce qu'il reçoit, parce que des personnes de mauvaise vie viennent le voir, parce qu'il accepte des personnes qu'eux-mêmes n'auraient jamais acceptées. Et Jésus va donner trois paraboles dans ce sens, on le connaît, c'est juste les quelques versets que nous n'avons pas lus, la parabole de ce qu'on appelle la brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue, ce que nous venons de lire. On a souvent parlé de cette parabole sur le fils prodigue pour parler de ce fils qui avait demandé l'héritage et qui était parti. On en a beaucoup parlé également pour au sujet du frère qui lui était resté. Mais cet après-midi, ce qui est venu sur mon cœur, c'est qu'au travers de cette parabole, on puisse s'attarder sur le père dans cette histoire que Jésus raconte. Parce qu'au travers de son comportement, de ce qu'il va mettre en place, de ce qu'il va répondre, de tout, nous voyons l'amour de Dieu à notre égard. C'est cela qui nous intéresse cet après-midi. On n'est pas là pour raconter ceci ou cela, la philosophie, notre manière de penser, ma manière de penser. Je ne pense pas que ça vous intéresse grandement ce que je pense sur ceci ou cela. Ce qui est important, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous aime. Nicolas a cité ce verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et c'est une réalité, et dans toute la parole de Dieu, il y a cette unité, cette même manière de penser. Dieu n'a pas changé, et on le dit régulièrement, parce que quelquefois des personnes viennent et pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est sévère, il n'aime pas comme dans le Nouveau Testament. Non, il y a le même amour, Dieu nous aime de la même manière. Et on le voit d'une manière peut-être claire dans ce texte, et c'est cela que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble cet après-midi. La première fois qu'il est fait mention du Père, c'est au verset 12, lorsque ce jeune homme va dire à son Père, « Mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » On pourrait dire, ce garçon va dire, « Mon Père, donne-moi. Mon Père, donne-moi. Donne-moi, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Et on ne connaît pas trop le Père, on ne sait pas. Quels sont ses sentiments? On devine, parce que dans le contexte historique, le contexte de l'époque, on devine que c'est une blessure. Mais la fin du verset 12 nous dit, mais le Père leur partagea son bien. Le Père ne va pas discuter sur le choix de son fils. Ou peut-être qu'il a fait, mais en tout cas, dans la parabole, Jésus n'a pas voulu, dans cette histoire, n'a pas voulu s'apesantir sur cela, et les versets qu'il nous a donnés sont suffisants. Le Père n'est pas rentré dans une polémique en disant « mais tu ne te rends pas compte de ce que tu vas faire, tu es insensé, ceci, cela », et on va voir que la loi quand même cadrait vraiment les enfants qui suivaient de tels chemins. Mais le Père, c'est pas ça qui l'a intéressé. L'amour de Dieu, c'est un amour que peut-être on ne peut pas saisir, on ne peut pas comprendre, bien sûr, d'une manière intellectuelle. Mais c'est un amour qui nous laissera et qui nous laisse toujours le choix. Le choix de suivre ou de ne pas suivre. Cet après-midi, nous parlons de Dieu le Père, nous parlons de Jésus-Christ, bien sûr, et on va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais cet amour qu'il a manifesté au travers de Jésus-Christ, cet amour qui cet après-midi peut encore vous bouleverser, vous parler d'une manière particulière, ce n'est pas un amour qui va s'imposer à vous. Ce n'est pas un amour qui va violenter votre personnalité, ce que vous êtes. Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, ce n'est pas les montagnes russes au niveau de ce qu'il peut, je vais employer ce terme pour que nous puissions comprendre, de ce qu'il peut ressentir à notre égard. Même si on comprend qu'il n'est pas question de ressenti, mais d'un amour parfait. Et dans tout ce que nous faisons, quand bien même nous sommes éclairés sur la vérité, il y a toujours cette possibilité pour nous de dire, écoute, Dieu, donne-moi, 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 et je pars. Donne-moi cette réponse à ma prière et je m'en vais. Donne-moi ceci et je pars. Je vais faire mes propres expériences. J'avais besoin d'un travail, donne-moi mon travail. Donne-moi ceci. Et dès qu'on a le travail, dès qu'on a ce qu'on avait demandé, on se dit, mais maintenant je vais pouvoir faire mes expériences. Et c'est ce qu'a fait ce jeune homme. Et le Père, et je le répète, n'a pas changé, n'a pas polémiqué. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on comprenne son amour, c'est qu'on comprenne que lui ne va pas partir, ne va pas nous rejeter. Et on le voit dans cette histoire, le Père est resté fidèle à ce qu'il était. Et nous avons un Dieu qui est fidèle à notre égard, un Dieu qui nous aime, qui nous attend. Mais c'est à nous quand même de prendre cette décision. Il y a ce verset dans 2 Chroniques 15, « Si vous me cherchez », j'ai pris volontairement dans l'Ancien Testament pour appuyer le fait que Dieu n'a pas changé. « Si vous me cherchez, si vous cherchez l'Éternel, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Comment ? Dieu nous abandonne ? Non, ça veut dire que si on le cherche, si le jeune homme avait dit « Écoute, Père, mon Père, tu vois, il y a ça dans mon cœur, aide-moi. si on cherche une solution en Dieu. Si cet après-midi, quelqu'un est venu avec un problème, et bien sûr, le plus grand problème que nous pouvons avoir, c'est le péché. Si quelqu'un est venu en disant « mais je reconnais, je comprends que dans ma vie, il y a le péché, je n'arrive pas à le régler », si vous cherchez la solution en Dieu, parce que Dieu a pourvu à cela en donnant son Fils Jésus-Christ, alors on va trouver. C'est obligatoire. J'ose dire que c'est obligatoire. Mais si on abandonne, si on ne s'intéresse pas, si comme le Fils on dit « Père, donne-moi, donne-moi » et qu'on abandonne après, Dieu ne peut pas, c'est ce que veut dire ce verset, le Père ne peut pas aller au-delà de notre propre décision. Il nous laisse parce qu'il nous aime. Et dès le livre de la Genèse, on retrouve cette même pensée. Voilà, j'ai tout créé pour vous. Vous pouvez prendre de tout, mais l'arbre de la connaissance, non. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais voilà, ça, vous ne pouvez pas. Dieu aurait pu mettre, je ne sais pas moi, un mur de 15 mètres d'épaisseur en béton armé pour que l'arbre soit inaccessible. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il faut, il veut qu'on ait le choix d'accepter son message ou de ne pas l'accepter. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. C'est un amour qui s'exprime en nous laissant le choix et la possibilité de venir dans sa présence. Ce jeune homme va vite comprendre qu'il a pris des mauvaises décisions. On ne veut pas le blâmer, on ne veut pas le juger. Je pense que cet après-midi, ça nous est tous arrivé de prendre des mauvaises décisions. D'aller dans une direction, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne. Que notre vie est une succession de mauvaises décisions. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ce jeune homme va faire, et c'est l'état, ce qu'il connaissait du Père. Parce que ce jeune homme, arrivé à un moment donné, il va se rappeler, il va dire, mais combien chez mon Père ont du pain en abondance ? Ici, je meurs de faim. Il va se souvenir que chez son Père, rien ne manque. Et nous avons un Dieu qui a tellement de choses à nous donner. Nous avons un Dieu qui veut bien sûr être notre Père, dans le sens qu'il veut pourvoir à tous nos besoins. Nous avons un Dieu qui est capable de nous nourrir tous les jours de notre vie, qui ne va jamais être à court, qui ne va jamais être surpris par les événements. Nous avons un Dieu qui est là, qui a des réserves, des bénédictions pour nous. Et ce qui est important, c'est ce que ce jeune homme va faire. Il va se souvenir. Peut-être vous ne connaissez pas Dieu. Peut-être vous avez besoin d'apprendre. Ce n'est pas grave. Apprenez. Apprenez à chercher en Dieu la solution. Apprenez à connaître celui qui a tout donné pour que nous puissions à un moment donné nous rappeler que Dieu a tout ce qu'il faut dans sa maison et qu'il nous attend. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on vive cela. Ce n'est pas dans la pensée, dans le désir de Dieu qu'on s'en aille tellement loin de lui pour qu'une fois qu'on soit dans la misère la plus totale, on puisse se rappeler, on puisse se dire « mais au fait, dans la maison de mon Père, j'avais tout ce qu'il fallait ». Mais au fait, Dieu me parlait de paix, pourquoi est-ce que je suis allé chercher la paix ailleurs ? Mais au fait, il y avait l'espérance auprès de mon Dieu, il y avait le salut de mon âme. Pourquoi est-ce que je suis allé chercher dans le monde ce que Dieu, ce que mon Père, ce que celui qui a créé l'univers pouvait me donner ? Chez mon Père, rien ne manque. Chez Dieu, rien ne manque. Et cet après-midi, on peut être venu avec tellement de besoins, tellement de choses, de fardeaux sur notre cœur. Ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que Dieu attend. Dieu a déjà tout pourvu, a tout donné en Jésus-Christ et on y reviendra. Pour que nous puissions venir, pour qu'il puisse nous donner, pour qu'il puisse nous communiquer une promesse, une direction pour notre vie, au niveau professionnel, sentimental ou autre. Il veut nous donner. Et c'est à nous de pouvoir se dire, de rentrer en nous-mêmes et de nous dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire de ma vie ? Qu'est-ce qu'il en est de ma vie ? Il y avait ce texte, je vais le lire pour vous, lorsque je méditais sur ces paroles. C'est dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 1er. Et le verset 7, nous lisons « Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. » Vous connaissez peut-être ce verset. « Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis, l'ont vu et ils ont ri de sa chute. » Jérusalem, et on peut mettre notre nom, notre prénom, et on peut faire le rapprochement avec le fils prodigue. Il s'est souvenu de ce qu'il avait. Il s'est souvenu des biens. Il s'est souvenu de la relation qu'il pouvait avoir avec Dieu. Il s'est souvenu de la bénédiction que c'est que de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Dès longtemps son partage, bien sûr, l'oppresseur est là. L'oppresseur veut se rire de nous, veut se moquer. Mais merci Seigneur parce que Jésus-Christ a triomphé sur le bois de la croix pour que nous puissions partir en ayant remporté la victoire, non pas nous, mais en ayant accepté Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur notre vie, sur l'oppresseur. Il s'est souvenu. Et ce message peut-être s'adresse à des personnes qui ont connu Dieu et qui ont pris des chemins de traverse. Peut-être ce message est là aussi pour donner envie à quelqu'un de pouvoir connaître qui est ce Père qui nous aime, qui est ce Père qui a donné Jésus-Christ, qui est ce Père qui a tout donné pour que nous puissions être comblés à tous les niveaux et bien sûr recevoir le pardon de nos péchés. Dans cette assurance, ou du moins plutôt, le Fils savait, et c'est une certitude, et c'est ce que nous devons comprendre cet après-midi, c'est qu'à partir du moment où nous décidons, où nous avons cette résolution de dire « Mais chez mon Père, rien ne manque », nous pouvons y aller. La porte ne sera pas fermée. Ce fils-là savait qu'à partir du moment où il s'est dit, où il y a eu la repentance dans son cœur, où il a compris que ce qu'il avait fait, ce n'était pas en accord avec la volonté de Dieu, où il a compris qu'il était pécheur et qu'il avait besoin de pardon, à partir du moment où il avait compris cette réalité, le Fils savait que le chemin sur lequel il allait marcher, ça allait être un chemin qui allait l'amener, le guider à une porte ouverte. La porte de notre Père, encore pour aujourd'hui, pour l'instant, n'est pas fermée. Le Fils savait, oui, chez mon Père, rien ne manque. Chez mon Père, je peux y aller. Chez mon Père, je peux y rentrer. Chez mon Dieu, je peux y aller en Jésus-Christ. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et au-delà de ce texte, bien sûr, vous l'aurez compris, celui qu'on veut vous présenter cet après-midi, c'est Jésus-Christ. Celui dont on veut parler, c'est celui qui est venu sur le bois de la croix, qui a accepté d'être crucifié, qui a accepté la couronne d'épines, parce qu'il savait que pour que nous puissions trouver le chemin vers notre Père, il fallait qu'on passe par lui, il fallait qu'on aille devant la croix, il fallait qu'on reconnaisse qu'on est pécheur et que c'est en lui que nous pouvons être pardonnés et que c'est en lui que nous pouvons nous placer devant notre Père parce que la porte est ouverte, parce qu'il a tout payé. Chez mon Père, rien ne manque. Et lorsqu'on décide de venir vers notre Père, lorsqu'on fait ce pas, lorsqu'on expérimente la grâce, Dieu fait le reste. La Bible nous dit, et c'est le verset 20, lorsque le Fils va prendre cette résolution, et il se leva et alla vers son Père, comme il était encore au loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Lorsque nous nous approchons, lorsque même nous faisons qu'un seul pas parce qu'on est vacillant, parce qu'il y a des choses qui sont là, on est rempli de doutes, on est rempli d'hésitation, on est rempli de ceci ou cela, c'est pas grave. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Ce que Dieu veut voir, c'est cette foi qui fait la différence. Et Dieu fait le reste, Dieu s'approche de nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous pouvons venir et il fait le reste. Il nous prend dans ses bras, ému de compassion, parce qu'il nous aime, parce que lorsqu'il nous regarde, il ne voit pas ceci ou cela, mais il voit ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. Il y a ce texte, et je vais bientôt terminer. On pourrait le lire ensemble, c'est dans Deutéronome, chapitre 21. Parce que je ne sais pas si on se rend compte vraiment. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Mais de l'amour de Dieu à notre égard. Parce que le Père, quand il attend, quand il est là, quand il le voit au loin, qu'il court vers son Fils. La loi, ce n'est pas ça qu'elle disait. La loi, ce n'était pas ce qui était prévu pour ce Fils. Et on va le lire pour que, j'espère, que ça soit vraiment clair pour tout le monde. Deutéronome, chapitre 21, verset 18. C'est ça. Regardez ce que dit la loi. Parce que c'est comme ça qu'on méritait. C'est comme ça que ce Fils méritait d'être traité. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville, à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et regardez, parce que c'est ça qu'on méritait. « Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Et nous, quand on lit cette histoire, on se dit, c'est chouette, c'est bien, le Père est... C'est bien ce qu'il a fait, ce Père. Mais ça va plus loin. Parce que le veau gras, quand même, il y a eu un sacrifice dans cette histoire. Parce que quand même, le Père, il aurait pu, lorsqu'il a vu son fils arriver, il aurait pu dire, attends, tu as voulu ton héritage, tu reviens maintenant. On va voir les anciens, je vais raconter ce que tu as fait, et voilà ce qui va t'arriver. On va te lapider. C'est ça qu'on mérite. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible nous parle aussi de la grâce de Dieu. La Bible nous dit qu'on n'est pas traité comme on l'aurait dû être. La Bible nous parle... Au-delà de l'amour du Père, bien sûr, c'est un amour qui a été manifesté en chair au travers de Jésus-Christ. Un amour qui est tellement immense que lorsque nous venons tachés, souillés par le péché, lorsque nous sommes là dans notre misère, et peut-être c'est le cas d'une personne cet après-midi, ou peut-être de ce qu'on était nous sûrement avant d'être là, d'avoir rencontré Jésus-Christ, ce qu'on aurait mérité, c'est que lorsqu'on venait dans la présence en disant « Seigneur, je cherche une solution remplie de péché », ce qu'on méritait, c'est la mort, mais c'est comme si Dieu avait stoppé le temps, avait arrêté ça, arrêté la condamnation, arrêté le jugement, en disant « Mais ne touchez pas, c'est mon fils, ne touchez pas celui-là ». Nicolas disait, nous interpeller d'une manière personnelle. Et c'est comme si Dieu, cet après-midi, si on transposait cette histoire au jour d'aujourd'hui, c'est comme si Dieu disait, mais ne touchez pas à Nicolas, ne touchez pas à Jérôme, ne touchez pas à Jonathan, parce que c'est la mort qu'il mérite. Mais voilà, j'ai donné Jésus-Christ, j'ai donné mon fils bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui est venu, pour que ça soit lui qui soit frappé. Pour que ça soit lui qui reçoive la condamnation, notre condamnation, la condamnation de notre péché. Et que c'est lui qui porte cela pour que nous puissions vivre la fin de cette histoire. Pour que nous puissions vivre de voir le Père ouvrir ses bras d'amour pour nous accueillir en disant « Mais enfin tu es de retour, enfin tu es là, enfin tu as compris que j'étais suffisant pour combler ta vie ». Enfin, tu es là, tu reviens. Enfin, tu as compris que tu n'as pas besoin d'aller dans le monde pour trouver la paix. Tu n'as pas besoin d'aller à droite ni à gauche, mais c'est moi qui suis ta paix, c'est moi qui suis ta vie. Et c'est cela l'amour du Père, c'est cela le Père que nous voulons vous présenter. Dieu donne une famille à ceux qui sont privés, aux orphelins, à ceux qui sont là, détruits. Dieu donne une famille. Dieu veut être ton père, non pas selon l'image que tu connais, non pas selon ta propre représentation, mais Dieu veut que tu viennes à lui, lui faire confiance. Quand tu as un problème, il veut être ce père qui est là, qui t'écoute, parce que Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a inauguré une nouvelle route, que le voile a été déchiré, on peut se présenter devant Dieu. Et cet après-midi, ce que nous avons besoin, c'est de vivre ce que ce jeune homme a vécu, c'est de rentrer en nous-mêmes en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Si on pouvait faire le point, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai pas besoin de rencontrer ce Père qui est rempli d'amour, qui m'ouvre ses bras, qui me dit, mais peu importe tes vêtements, peu importe ce qu'a été ta vie, je te donne une nouvelle tunique. Je te donne un anneau au doigt pour renouveler mon alliance avec toi, pour te dire que maintenant, on est scellés. Tu m'appartiens, maintenant on peut faire la route ensemble, le chemin ensemble, je te donne des souliers. Pour que ta marche soit allégée, pour que ta marche soit portée par moi, par ma parole, par mon esprit, pour que tu puisses traverser ce monde sans crainte, sans te faire mordre, sans te faire mal par quoi que ce soit. C'est ça l'amour de Dieu. Il y a eu un veau gras. Il y a eu un veau gras, il y a eu un sacrifice. Et Jésus s'est donné pour que nous puissions connaître cela. Jésus s'est donné pour que nous puissions expérimenter cela. Et bien sûr, parce que quand même l'histoire, le Père, on peut apprendre encore à le connaître au travers de cette histoire. Parce qu'alors qu'il y a la réjouissance, alors qu'on assiste à une résurrection spirituelle, à une nouvelle naissance, ce que la Bible nous appelle la nouvelle naissance, alors qu'on comprend qu'on peut changer de camp, qu'on peut passer des ténèbres à la lumière en faisant cette expérience. Le frère qui est là, qui revient, aigri, je ne vais pas m'apesantir sur lui, qui ne va pas accepter de se réjouir, va rester dehors. Et on apprend à connaître encore le Père dans cette histoire-là. Parce que le fils qui était en colère, le Père aurait pu lui dire, écoute, c'est pas le moment, je vais m'occuper de toi plus tard, parce que là, je vois que ton service, c'était pas comme moi je le pensais. C'est pas ça qu'il va faire. Et c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour patient. C'est un amour qui est là et il attend qu'une chose, c'est qu'on se décide pour lui. Et la Bible nous dit, c'est le verset 28, son père sortit et le pria d'entrer. Et je terminerai avec cette pensée. Son père sortit et le pria d'entrer. Un jour, il y a la porte qui sera fermée. Et on n'aura plus cette invitation. On n'aura plus cette possibilité de rentrer. Il y aura la fête. Je vais employer cette image, mais vous comprendrez que ce n'est pas réellement comme ça. On pourra entendre la réjouissance. On pourra peut-être entendre la musique. On pourra, excusez-moi l'expression, sentir l'odeur du veau gras qui est là. Mais on sera à l'extérieur. Un jour, cette porte sera fermée. Mais tant qu'elle est ouverte, est-ce que vous voyez avec moi l'amour de Dieu qui est là, qui prend le temps de venir là où nous sommes? Peut-être que tu as été blessé, peut-être que tu as été aigri, peut-être que par un responsable, je ne sais pas, peut-être que dans ton service, dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, peut-être que tu as connu le Seigneur il y a des années en arrière, et tu reviens et tu es là dans un état d'amertume, de rancœur et tu es en colère. Mais est-ce que tu vois l'amour de Dieu qui est encore manifesté et qui te dit « Mais rentre, rentre, ne reste pas comme ça, rentre, viens te réjouir avec nous. Rentre parce que ce que ton frère a vécu, tu peux l'expérimenter tout à nouveau. Tu peux vivre cette expérience peut-être encore une fois. » Tu peux être rafraîchi par moi, ne reste pas dehors. Et s'il y a quelqu'un cet après-midi qui sent, qui sait qu'il est en dehors, qui est à la porte, et on peut être juste à côté de la porte, on peut même voir de nos yeux ce qui se passe derrière la porte, mais on peut être quand même à l'extérieur. Et l'amour du Père, c'est de nous dire, mais il le pria d'entrer. On pourrait dire, paraphrasé en français courant, moderne, 2015, « S'il te plaît, rentre. S'il te plaît, viens. » Et c'est là ce que Dieu veut faire. C'est là cette invitation. Et vous pouvez très bien, comme ce frère, dire « Non, moi je préfère rester dehors. » Vous pouvez, je l'ai dit, on a toujours le choix. Dieu ne nous pousse pas. Vous pouvez en rester en disant « Mon Père, donne, donne, donne. » Mais vous pouvez aussi expérimenter cette nouvelle tunique, cet anneau et ses souliers aux pieds. Vous pouvez expérimenter le salut en Jésus-Christ. On prie le Seigneur un instant. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles combien tu nous aimes, combien tu as tout donné pour que nous puissions avoir la solution dans notre vie. Et nous savons, nous croyons que la solution est en Jésus-Christ. Tous dans cette salle, mon Dieu, ont mérité la mort. Tous. La Bible dit, ta parole dit, il n'y a pas un juste, pas un seul. Tous ont mérité la mort. Mais Seigneur, nous, peut-être la plupart, je ne sais pas, ont compris que tes bras étaient encore ouverts. Ont compris que c'est Jésus-Christ qui a tout payé sur la croix pour que nous puissions venir dans ta présence. S'il y a dans ce lieu, mon Dieu, cet après-midi, quelqu'un qui sait qui est en dehors de toi, qui sait qui est à l'extérieur, s'il y a quelqu'un peut-être qui ne connaît pas, qui ne te connaît pas d'une manière personnelle comme un Père rempli d'amour, que tu puisses te révéler à lui par ton Saint-Esprit, que tu puisses te manifester ton amour, cet amour qui nous amène à la repentance, à comprendre que tu as tout donné, tout accompli. Merci mon Dieu pour tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as fait déjà, mais ce que tu veux faire encore dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions être prêts le jour où cette porte sera fermée, pour que nous puissions être prêts et nous réjouir en toi pour l'éternité, mais déjà ici-bas, tu veux nous communiquer cette joie, cette paix. Oh Père, merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.